On a toute cette première période, l'individu doit travailler à travers les instruments de la nature inférieure. Quel est le travail et comment est-ce qu'il s'effectue?
Il y a un côté positif et un côté négatif à ce travail. Le positif est d'accroître son aspiration de développer sa conscience, d'unifier son être, de s'intérioriser pour devenir de plus en plus en rapport avec son être psychique. De prendre toutes les parties ou tous les mouvements, toutes les activités de son être, de les présenter devant cette conscience psychique pour qu'elles prennent leur place véritable vis-à-vis de ce centre, afin d'organiser toute l'aspiration vers le divin et le progrès vers le divin. Ça, c'est le côté positif. En même temps, le côté négatif consiste à refuser méthodiquement et avec discernement toutes les influences qui viennent du dehors ou du subconscient ou de l'inconscient ou de l'entourage et qui s'opposent au progrès spirituel. Il faut discerner ces influences, ces suggestions, ces impulsions et les refuser systématiquement sans jamais se décourager de leur persistance et sans jamais céder à leur volonté. Il faut en même temps s'apercevoir dans son être des différents éléments obscur, égoïste, inconscient ou même de mauvaise volonté, qui répondent consciemment ou non à ces influences mauvaises et qui leur permet non seulement de pénétrer dans la conscience, mais c'est quelquefois de s'y installer. Ça, c'est le côté négatif. Les deux doivent être poursuivis en même temps, suivant les moments, suivant les occasions, suivant la facilité intérieure. Il faut tantôt insister sur l'une, tantôt insister sur l'autre, mais ne jamais les oublier, ni l'une ni l'autre. Généralement, tout progrès qu'on fait d'un côté à sa contrepartie dans l'attaque des forces adverses de l'autre côté. Alors, plus on avance, plus on doit devenir vigilant. Et la qualité la plus nécessaire, c'est la persévérance, l'endurance et une sorte de bonne humeur intérieure qui fait que on ne se décourage pas, on ne s'attriste pas, et qu'on fait face en souriant à toutes les difficultés. Il y a un mot anglais qui exprime ça très bien, c'est « cheerfulness ». Si on peut garder ça au-dedans de soi, on lutte beaucoup mieux. On résiste beaucoup mieux dans la lumière à ces influences mauvaises qui essayent d'empêcher de progresser. Voilà le travail. Il est vaste et il est complet. Et il ne faut jamais rien oublier.
Est-ce que c'est le Suprême qui choisit un être pour son instrument ou c'est l'être qui choisit d'être l'instrument?
C'est comme tu veux. On ne peut pas savoir qui a commencé. Mais les deux se produisent généralement en même temps. Si tu veux un ordre de priorité, il est évident que le divin existe avant l'individu, alors ça doit être le divin qui a choisi pour la première fois. Mais ça, c'est un choix antérieur à la vie terrestre. Dans l'ordre de la conscience humaine ordinaire, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. En fait, il est probable que c'est le divin qui le premier s'aperçoit que celui-là est prêt. Mais celui qui est prêt, généralement, commence par ne pas le savoir. Alors il a l'impression que c'est lui qui a décidé et qui choisit. Mais ça doit être plutôt une impression qu'une réalité. Et une fois qu'on est choisi, c'est inéluctable, on ne peut pas échapper, même si on le sait.
L'effort et la tapasya seront remplacés par un épanouissement spontané, simple, puissant et heureux de la fleur du divin, hors du bourgeon d'une nature terrestre purifiée et perfectionnée.
C'est une forme poétique de dire maintenant. C'est une comparaison. Mais qu'est-ce que c'est que tu ne comprends pas? Pourquoi il a parlé de bourgeons et de fleurs et...
Non, je demande ça parce que le bourgeon s'ouvre en une fleur sans aucun effort. Mais nous avons l'effort à faire, n'est-ce pas?
Mais il dit que ça, c'est le moment où on est prêt, n'est-ce pas? C'est justement sa comparaison vient pour dire que c'est justement pour te faire penser, mais le bourgeon souffre sans effort. Alors quand la nature est prête, il se produit la même chose que pour le bourgeon. Mais il n'est pas sûr, effort, je ne sais pas ce que nous appelons effort, il n'est pas sûr que la plante ne fasse pas effort. Et en tout cas, elle a une aspiration. Quand les plantes croissent, c'est le résultat d'une aspiration vers la lumière. Vers la lumière, vers le soleil, vers l'air libre. Et c'est une sorte de compétition. Si on voit dans un bois, par exemple, dans un parc où il y a beaucoup de plantes différentes, on peut très bien observer qu'il y a une sorte de compétition entre les plantes pour celle qui pourra passer à travers les autres pour atteindre la lumière et l'air libre au-dessus. C'est même assez merveilleux à voir. Non, ce qu'il veut dire, c'est que quand on s'est bien préparé et que la nature est prête, eh bien, le dernier mouvement est comme un épanouissement spontané. Il n'est plus un effort qui est une réponse, c'est une action véritablement, une action divine dans l'être. On s'est préparé et le moment est venu. Alors le bourgeon s'ouvre.
Comme dans les plantes, il y a une aspiration pour grandir. Est-ce que dans les enfants aussi, il y a une aspiration pour grandir?
Oui. Même elle est très souvent consciente, n'est-ce pas? Ils veulent devenir grands.
Alors, est-ce que ça dépend de leur aspiration, ce qu'ils deviennent plus grands et plus petits?
À un certain moment, oui. J'ai connu véritablement des enfants qui ont grandi parce qu'ils avaient une très forte volonté de grandir. Oui, ça a une action. même quand on n'est plus tout à fait un enfant. J'ai eu des exemples de gens qui avaient grandi même à 25 ans, tellement ils étaient anxieux de grandir. Et qui n'ont pas fait, je ne parle pas de gens qui ont fait de la culture physique, parce que ça c'est différent, n'est-ce pas? Avec la culture physique, on peut changer très considérablement son corps. Je parle simplement d'une aspiration, d'une volonté intérieure. Le corps est suffisamment plastique jusqu'à 25 ans. Après, alors, il faut faire intervenir des méthodes plus scientifiques, comme la culture physique. Alors là, si c'est fait d'une façon savante et logique, on peut obtenir des résultats merveilleux. Mais il faut derrière toujours la volonté. C'est très important. Une sorte d'aspiration tenace. Une connaissance ou une foi aussi qu'on n'est pas lié nécessairement par l'atavisme. Parce que il y a évidemment, comme dans les plantes, n'est-ce pas, on est limité par la graine d'origine, l'espèce à laquelle on appartient. Mais il y a tout de même une grande marche. J'ai vu maintes fois des enfants qui étaient considérablement plus grands que leur père, et qui vraiment, ils l'avaient vu. Évidemment, c'était avec une certaine résistance et dans une certaine limite, mais on peut repousser la limite beaucoup. Et au fond, avec les théories d'hérédité et d'atavisme, on dit que les hérédités peuvent passer de génération, et il y a peu de familles qui n'aient pas eu au moins un membre qui soit grand et qui puisse légitimer la haute taille des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants.
De combien de façons est-ce qu'une plante peut grandir autre que physiquement?
Il y a dans les plantes une grande force vitale. Et cette force vitale agit considérablement. Et il y a aussi le génie de l'espèce qui est une conscience. Il y a déjà une conscience active qui agit dans les plantes. Et dans le génie de l'espèce, il y a un commencement très embryonnaire, mais enfin, il y a un commencement de réponse à l'influence psychique. Et certaines fleurs sont évidemment l'expression d'une attitude et d'une aspiration psychique dans la plante. Pas très consciente de soi, mais qui existe comme un élan spontané. Il est tout à fait certain que, par exemple, si vous avez une affection spéciale pour une plante, en plus du soin matériel que vous lui donnez, si vous l'aimez, si vous vous sentez proche d'elle, et le sang. Son épanouissement est beaucoup plus harmonieux, heureux. Sa croissance est meilleure. Sa durée est prolongée. Tout ça, ça implique une réponse dans la plante elle-même. Par conséquent, il y a la présence là d'une certaine conscience et certainement la plante a un être vital. Ça peut arriver, mais ça c'est accidentel. Il y a des arbres surtout qui ont vécu très longtemps et qui peuvent être les demeures d'un être conscient, d'un être vital. Généralement, ce sont des individualités vitales qui prennent refuge dans les arbres, ou bien certains êtres du vital qui habite les forêts. Comme dans l'eau, il y a certains êtres du vital qui y habitent. Il y avait de vieilles légendes comme ça, mais c'était basé sur un fait. Mais ce, comment dire, la plante sert de demeure et d'abri. Mais l'être n'est pas construit par la plante elle-même.
Est-ce que l'être qui est choisi par le Guru peut-il le comprendre de sa naissance?
Peut-il
quoi? Comprendre qu'il est choisi par le divin.
Oui.
De sa naissance.
Même avant sa naissance. Peut-être que sa naissance est le résultat de ce choix. Généralement, c'est comme ça. Mais à n'importe quelle époque de la vie, ça peut se produire. Mais pour ceux qui sont prédestinés, c'est avant la naissance. Généralement, ils sont venus sur la terre avec une intention et pour un but déterminé. Bien savoir si ça t'est arrivé, hein? Eh bien, essaye de savoir. Et cette aspiration intérieure fait une concentration. Essaye. Si tu as des résultats, tu me diras. Je te dirai si c'est correct. Quelque chose dans la tête.
Mais pour continuer cette question, la dernière phrase, si je explique un peu.
Je note, mais je n'entends rien de ce que vous dites.
Et la plus moitié de cette question, maître. Le Suprême a posé sa main sur un instrument humain choisi pour manifester sa lumière.
Oui.
Alors, est-ce que ça peut être général ou un semi-humain?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Général ou?
Un sur un million.
Général, ça veut dire quoi?
Est-ce que ça peut devenir général?
Général quoi? Général à quoi?
Le divin a posé sa main sur un instrument lunaire, choisi pour manifester sa lumière.
Oui. Alors, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tous les hommes qui sont sur la terre, c'est ça que vous voulez dire?
Celui qui aspire par le yoga, ou bien un seul. Cette phrase, je n'ai pas compris.
Oh! Ça commence à prendre forme. Est-ce que c'est seulement un individu que le divin choisit pour le manifester, ou s'il peut en choisir plusieurs? Il en choisit plusieurs. Mais là aussi, il y a une hiérarchie. On ne peut rien comprendre à la vie spirituelle si on ne comprend pas la vraie hiérarchie. Maintenant, ce n'est pas à la mode. Dans la pensée humaine, c'est une chose qui n'est pas du tout favorisée. Mais au point de vue spirituel, elle est automatique, spontanée et indiscutable. Et alors, si vous avez une hiérarchie qui soit vraie, il y a une place pour tout le monde. Et à la place où il est, sa vérité individuelle est absolue. C'est-à-dire que chaque élément qui est vraiment à sa place a une relation totale et parfaite avec le divin, à sa place. Et pourtant, dans l'ensemble, il y a une hiérarchie qui est aussi tout à fait absolue. Mais pour comprendre la vie spirituelle, il faut d'abord comprendre ça. Et ce n'est pas très facile. Chacun peut être l'expression parfaite du divin en lui-même. À condition qu'il sache sa place et qu'il y reste. Mais ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont hiérarchisés. Quel est le besoin de le savoir? Ce n'est que si on veut organiser physiquement une société spirituelle, alors là on est obligé de matérialiser la hiérarchie. Mais généralement dans le monde tel qu'il est, il y a tant de trous dans cette hiérarchie que ça paraît une confusion. La hiérarchie parfaite est une hiérarchie totale. Et elle ne se soucie ni du temps ni de l'espace. Alors quand vous voulez réaliser ça physiquement, ça devient très difficile. Je vous dis, c'est comme une étoffe qu'on tisserait avec des quantités de trous partout. Alors les trous, ça dérange l'harmonie générale. Il manque toujours des gens. Il manque des échelons, il manque des pièces sur l'échiquier. Ça manque. Alors ça a l'air d'une confusion. Mais si tout était exprimé et chaque chose à sa place, ça serait une harmonie parfaite et une hiérarchie parfaite. Et il y a quelque part pas dans l'univers matériel, mais dans l'univers manifesté, il y a quelque part cette hiérarchie parfaite, elle existe. Mais elle n'est pas encore manifestée sur Terre. Peut-être que ça sera un des résultats de la transformation supramentale, que le monde sera prêt pour une manifestation hiérarchique parfaite, spontanée, essentiellement vraie et sans coercition d'aucun genre. Où chacun aura conscience de sa perfection propre.
Parce que quand on parle de hiérarchie, ça implique quelque chose rangé en ordre supérieur et inférieur, non?
Oui, alors, si... mais c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que matériellement, c'est comme ça, mais ce n'est pas ce que j'appelle une hiérarchie.
Que veut dire hiérarchie?
C'est l'organisation des attributions. Et la manifestation dans l'action de la nature propre de chacun. On a essayé plusieurs fois de faire des comparaisons, mais elles ne valent rien. Parce qu'aucune des choses que nous connaissons physiquement puisse répondre à cette condition-là. Il y a toujours ce que tu dis, le sens de la supériorité ou de l'infériorité. Il y a des gens qui ont parlé des diverses fonctions du corps, par exemple, mais ça donne toujours l'impression qu'il y a que la tête est en haut et les pieds sont en bas, alors c'est gênant.
Chaque élément est toujours divin en même temps. Alors comment est-ce qu'il peut avoir une question de hiérarchie, si c'est spirituel? Dans une hiérarchie spirituelle,
oui.
On te dit, chaque élément.
Chaque élément a un rapport direct et parfait avec le divin.
Mais est-ce qu'il ne peut pas devenir tout le divin?
Oui, tous deviennent le divin, mais pas la totalité du divin, parce que le divin, c'est tout. Tu ne peux pas prendre un morceau du divin et dire ça, c'est le divin. Et pourtant, dans sa conscience spirituelle, il a la relation parfaite avec le divin, c'est-à-dire qu'il est aussi parfaitement le divin qu'il peut l'être. Mais pour reconstruire le divin, c'est tout le divin qui est nécessaire. Et c'est justement ça qui constitue l'essence même de la hiérarchie. Mais comme chacun est parfait en lui-même, il ne peut pas y avoir de sens d'infériorité ou de supériorité. Je ne crois pas que la mentalité humaine puisse comprendre ça. Je crois qu'il faut le vivre. Une fois qu'on l'a vécu, c'est très simple, c'est tout à fait, ça paraît lumineusement simple. Mais pour le comprendre avec le mental, ce n'est pas possible. Ça paraît impossible. Surtout, n'est-ce pas, que le mental fait comme ça pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Il est obligé de tout diviser et de tout opposer. Autrement, il ne comprend pas. Il est dans une confusion. Par son fonctionnement même, il se rend incapable de comprendre.
La consécration est en fait déjà accomplie.
Oui, dedans. Dans le monde qui n'est pas encore manifesté. La décision est là. C'est fait là. Alors il faut que ça vienne à la surface. C'est exactement l'équivalent individuel de ce que je vous ai raconté plusieurs fois déjà à propos de la liberté de l'Inde. Quand je suis entré dans un certain endroit et que j'ai dit à Sri Aurobindo, l'Inde est libre. Je ne lui ai pas dit elle sera libre, je lui ai dit elle est libre. Eh bien, entre ce moment-là où c'était un fait accompli, et le moment où ça s'est traduit dans le monde matériel sur la Terre, ça a pris combien d'années? C'était depuis
1920.
Hein? C'était en 1914. 1914 ou 1915. Jusqu'en 1945, ça fait 30 ans. Voilà. Ça, c'est l'image exacte de la résistance.
Tu avais vu une libération.
Alors, pour l'individu, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ça prend quelquefois aussi longtemps que ça. Quelquefois, ça va plus vite.
Je dis que tu avais vu l'Inde libre. L'Inde,
non, je n'avais pas vu, je savais.
Oui, libre. Je pose la question, l'Inde était libre. Dans quel couple qu'on allait en prison?
Hein? Oh, si c'était... Non, je voulais dire spécialement ça, ce qui s'est passé en 45, c'est-à-dire que la domination étrangère s'est retirée. C'est tout. Pas autre chose que ça. Pas sa liberté morale ou spirituelle. Je n'ai pas parlé de ça. Du tout. J'ai simplement parlé de ça, que elle était libérée de la domination étrangère. Puisque même sur une question que Sri Aurobindo m'a posée, je lui ai répondu du même endroit, il n'y aura aucune violence, ça se fera sans révolution, ce sont les Anglais qui d'eux-mêmes décideront de s'en aller parce que la place sera intenable à la suite de certaines circonstances terrestres. Parce qu'il s'agissait seulement de ça. Il n'y avait aucune affaire spirituelle là-dedans. Et ça s'est passé comme ça. Et je l'ai dit à Sri Aurobindo en 1915. Exactement. C'était tout là, c'était là. Je n'ai rien deviné, ni rien prophétisé. C'était un fait. Et alors, ça vous donne exactement l'image du temps que ça prend entre le fait établi et la réalisation matérielle. Et pour l'individu, c'est la même chose. Il est choisi, et il a choisi le divin, il est choisi, et c'est une affaire qui est décidée. Et ça se produira inéluctablement. On ne peut pas échapper, même si on essaie. Ça peut prendre très longtemps.
Hey, je demandais. L'un de tes livres, n'est-ce pas?
Oui.
1915.
Oui.
Mais est-ce qu'elle était libre comme elle est libre à présent? C'est-à-dire, l'un n'est pas libre tout entier, c'est coupé, non?
Oh, comme ça?
Oui.
Ça, les détails n'y étaient pas. Non, il devait y avoir une possibilité que ce soit autrement, puisque quand Sri Aurobindo leur a envoyé dire de faire une certaine chose, ils savaient très bien qu'on pouvait éviter ce qui s'est passé ensuite. Si on l'avait écouté à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de division. Par conséquent, la division n'était pas décrétée, c'est une déformation humaine. C'est incontestablement une déformation humaine.
Mais alors, comment c'est inéluctable?
Hein?
Comment c'est inéluctable, la décision du Suprême?
Comment?
Si... Le divin avait choisi que l'Inde sera libre.
Oui. Non, non, c'est pas comme ça, mon enfant. C'est un fait, c'est tout. C'est le divin qui est l'Inde, c'est le divin qui est la liberté, c'est le divin qui est l'assujettissement, c'est le divin qui est tout. Alors, comment est-ce qu'il a choisi? Je te conseille d'aller voir là-haut, comme ça tu comprendras. Tant que tu n'auras pas grimpé l'échelle, jusque-là, ça sera difficile à comprendre. Fini. Oui. c'est tout.